Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti. Bienvenue dans cet épisode court sur un objet culturel. À l'occasion de la sortie du film « Filles de joie », on va revenir sur les représentations du travail du sexe dans la pop culture, de Pretty Woman à la maison d'Emma Baker, entre misérabilisme, invisibilité, male gaze, female gaze et glamourisation. On va en parler avec toi, Pauline. Salut.
Salut. Bah, c'est vrai que c'est un sujet un peu épineux. Ça n'a pas toujours été très heureux en termes de représentation, on va le voir. Mais heureusement, on va quand même vous recommander certaines œuvres puissantes qui ne tombent pas dans les clichés, ou du moins pas trop.
Oui, mais on va commencer par certaines œuvres pas très puissantes, puisque c'est presque devenu un sous-genre au cinéma, notamment avec la figure de l'escorte ou de la stripteaseuse. On pense au film Striptease avec Demi Moore ou Showgirls de Paul Verhoeven, qui raconte les histoires de deux femmes devenues strippers. La première pour gagner de l'argent et mener un procès contre son ex, et la seconde pour réaliser son rêve de devenir danseuse. Et ce sont des fictions qui vont poser aussi la définition du TDS, donc du travail du sexe, puisqu'on va voir qu'il y a une grande diversité de métiers et de situations individuelles, même s'il y a assez peu d'hommes représentés de manière générale. Et dans ce sous-genre, on va aussi pouvoir distinguer l'entité qu'est la maison close, qui est souvent un objet de fascination plus ou moins réaliste, puisque le bordel est par excellence le lieu de la mise en scène des corps et ce qu'on appelle au cinéma et à la télévision la sexploitation, notamment dans la série Game of Thrones, dans le bordel de Peter Baelish. C'est aussi le lieu de l'entre-soi masculin, et d'ailleurs à ce sujet, on peut penser au film Risky Business, dans lequel Tom Cruise transformait sa maison en bordel lorsqu'il était adolescent. Très drôle.
Ça a l'air terrible ce film, j'ai vu la bande-annonce. Mais donc la maison close, c'est aussi un endroit de vie en collectivité, voire de sororité, où les femmes vont tisser des liens entre elles. C'est un lieu aussi que certaines travailleuses du sexe préfèrent parce qu'en fait elles considèrent que c'est un lieu qui peut être plus sécurisant que la rue par exemple, ou que le fait de faire de l'escorting chez soi en indépendante ou chez les clients. Donc comment ce lieu est-il représenté? Alors l'actualité sur le sujet, c'est donc la sortie le 18 mars du film « Filles de joie ».
Shérazade. Pour les prestations, 100 euros la demi-heure, 130 et trois quarts d'heure.
De Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch. Donc c'est avec au casting Annabelle Langron, Noémie Lovski, Sarah Forestier, qui est décidément notre actrice préférée quand il s'agit de jouer une femme blanche d'un milieu modeste. On l'avait vu dans Roubaix, une lumière de Desplechin, et on lui fait une petite dédicace parce qu'elle a pris la parole après la cérémonie des Césars, et c'est une des rares actrices françaises, je crois, qui a un peu dit que c'était un point de non-retour. La récompense de Polanski.
Et elle a dit qu'on aurait dû se lever par rangée.
Exactement. Donc, ces trois femmes et amies donc, vivent dans la même cité. Elles se rendent tous les matins en Belgique pour travailler dans un bordel / bar à champagne. Donc, on va trouver quelques scènes de complicité entre femmes. Et d'ailleurs, ça sent un peu, enfin, pas le vécu, mais disons qu'apparemment, Anne Polisevitch, elle est allée beaucoup de fois dans des bordels, je crois, des bordels de dodo la saumure. Ça devait pas être super brillant. Mais en tout cas, on a ces moments assez agréables à regarder, en fait, où les filles vont parler entre elles, vont discuter des clients. La prostitution, c'est finalement plus une toile de fond, parce qu'il va y avoir d'autres sujets qui vont émerger, comme la violence conjugale, les rapports mère-fille, la masculinité toxique. Donc l'ambition, elle est assez louable et les sujets sont assez intéressants. Après, j'étais un peu déçue par les chevilles du scénario, que je trouvais pas toujours crédible, et également la réalisation, que je trouve pas particulièrement subtile. Mais en tout cas, il y a le thème aussi de la vengeance contre les hommes, et il y a des scènes un peu spectaculaires qui sont introduites, donc ça aussi, j'ai trouvé ça assez audacieux. Mais voilà, après, il y a eu quelques scènes qui m'ont gênée, qui vont en fait entremêler la vie privée des femmes et leur métier. Par exemple, il y a le personnage de Annabelle Langron qui rêve d'être enceinte de son client.
Oula.
Donc ce genre de scène-là, moi, m'ont mise mal à l'aise en tout cas.
Peut-être qu'on peut plutôt conseiller, à l'inverse, en littérature, le roman La Maison d'Emma Baker, un des ouvrages qui a le plus fait débat cet automne au moment de la rentrée littéraire. Alors ce n'est ni une condamnation ni une incitation, donc faites vos choix. L'autrice, donc Emma Baker, qui est installée à Berlin, s'est faite embaucher dans une maison close berlinoise, puisque c'est légal en Allemagne, pour pouvoir écrire dessus.
Ce qui est intéressant là-dessous, ce sont les mécaniques qui se jouent entre hommes et femmes, ce qu'on apprend du désir féminin, même en tant que femme, parce qu'on est tellement corsetés, nous, par notre éducation, que pouvoir d'un seul coup décider quel genre de femme on est, c'était un énorme laboratoire.
Elle va expliquer que les conditions de travail dans cette maison particulière sont assez rares, même si c'est pas à rose tous les jours, et elle compare notamment avec un autre bordel qui est beaucoup, beaucoup plus glauque. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle veuille vraiment donner la parole aux personnes concernées, et elle dit qu'on a beau être fasciné par les pute, c'est le mot qu'elle utilise, on ne s'intéresse jamais vraiment à elle. Et là, au contraire, on voit bien cette sororité assez secrète des femmes entre elles, nues, sans chichi, sans apprêt, ou au contraire, en pleine performance pour accueillir leurs clients. Je trouve néanmoins qu'il y a certaines limites dans le livre, notamment du côté de cette fascination pour des descriptions de ce cocon féminin, ces odeurs, ces froufrous, etc., qui m'a un peu dérangée, que je trouve un peu complaisante. Mais voilà, le livre interroge vraiment sur l'intimité et les relations conjugales et la place que tient la prostitution là-dedans. Et pour une fois, c'est vu du côté des prostituées et pas du côté des bons bourgeois qui imaginent que ce sont des pratiques très marginales. Là, au contraire, on voit comment la société apparaît depuis l'intérieur de la maison. Donc c'est un renversement qui me semble intéressant. Je vais citer un extrait du livre. Personne n'ira voir quelle femme se cache derrière les putes. Et il faut qu'on les écoute. Dans ces carapaces vides que sont les putes, ces quelques carrés de peau loués à merci auxquels on ne demande pas d'avoir un sens, il y a une vérité hurlant plus fort que chez n'importe quelle femme qu'on n'achète pas. Il y a une vérité qui contient les paramètres les plus essentiels de cette humanité.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le livre aussi d'un point de vue littéraire, je le trouve très foisonnant, riche, cru, mais sensoriel vraiment, enfin dans les descriptions du bordel qui sont assez minutieuses. Mmh. Et en fait, oui, Emma Baker, elle dit qu'elle veut, entre guillemets, parler des putes comme des héroïnes, et c'est vrai qu'en fait, on sort d'une forme d'invisibilisation, notamment en les représentant comme des femmes, entre guillemets, comme tout le monde, c'est-à-dire qui ont des enfants, qui ont peut-être d'autres boulots à côté, qui ont aussi des petits amis. Et en ça, d'ailleurs, Fille de joie, enfin, je reviens un peu en arrière, mais c'était pas mal parce que les femmes sont aussi représentées en tant que mères et en tant que conjointes. Et c'est aussi intéressant en termes de représentation. Et dans La Maison, effectivement, ça parle aussi du rapport aux hommes et de la place du désir dans tout ça. Mmh. Et ça, c'est assez passionnant. Après, je trouvais qu'en fait, on n'entrait parfois pas assez dans les vécus des autres femmes alors qu'elles étaient là. Enfin, on les sent, mais on n'entre pas dans leur vie. Et du coup, le récit reste beaucoup centré sur l'intériorité de la romancière, enfin, en tout cas, sur son point de vue à elle. Et moi, ça m'a un peu frustrée. Mmh. Alors que moi, j'ai lu aussi le livre donc Putain de Nelly Arcand, et où là, t'avais un parti pris, enfin beaucoup plus clair en fait. C'est une introspection viscérale et assez douloureuse dans son quotidien, et elle raconte en fait les passes quotidiennes et aussi son rapport à sa mère et son monologue intérieur quelque part. Et là, je trouvais que le parti pris était plus, peut-être parfois plus fort.
Oui, c'est un livre dont on a déjà parlé dans le podcast et qu'on vous invite à découvrir. Et pour continuer dans les représentations de la maison close, on va parler aussi du cinéma, puisqu'il y a l'exemple de l'Apollonide, Souvenir de la maison close, qui est sorti en 2011.
Le métier, ça prend sur le tas, il est difficile. Si ça fonctionne pas pour toi, je peux pas te garder.
Donc c'est un film de Bertrand Bonello qui va filmer la fin des bordels au 19e siècle, au début du 20e siècle, sans nostalgie particulière, mais avec un vrai côté fin de race. À mon sens, c'est un film vraiment somptueux, suave, capiteux, mais qui ne cache pas néanmoins l'horreur du métier, la précarité, les maladies. Le casting est assez incroyable puisqu'on retrouve Adèle Haenel, enfin.
Yes, queen.
Assia Herzi, Céline Salette, et une bande originale très moderne qui tranche avec le genre du film en costume. Et d'ailleurs, la tenancière, donc la madame, qui est jouée par Noémie Lvovsky, encore elle, a ces mots très justes. Elle dit « La liberté, c'est dehors, c'est pas ici ».
Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs films sur le sujet parce qu'à la fois, il y a la puissance de l'entre-soi féminin et les aspects plus sombres, comme tu as dit, mais ça n'empêche pas en fait, de trouver une forme de beauté dans les corps, dans la maison close. Et ça m'a plu. Alors maintenant, on va remonter un peu l'histoire du 7e art pour voir quels classiques nous ont marqués. En fait, moi, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films et on va pas pouvoir tout raconter. Mais en tout cas, puisqu'on parle de Maison Close, moi, j'ai revu Belle de jour de Buñuel, donc sorti en 1967, qui raconte l'histoire de Séverine, jouée par la jeune Catherine Deneuve à l'époque, donc qui joue une jeune épouse frustrée qui va vendre ses charmes dans un appartement tenu par une madame, une maquerelle.
Vous êtes gentille et fraîche. C'est le genre qui plaît ici.
Et ça donne une vision assez torturée du sujet. Mais pour le coup, elle le fait par fantasme sexuel, ce qui a le mérite d'être montré. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes qui étaient très culture du viol, ou en tout cas qui respectaient pas trop la notion de consentement. Donc ça m'a fait bizarre de le revoir, ce film. Et toi ?
Figure-toi que je ne l'ai jamais vu. Honte à moi. Il faut que je le rattrape. Moi, je pensais au film de Chantal Akerman, Jeanne Dillman, qui raconte trois jours de la vie d'une mère veuve qui se prostitue chez elle pour arriver à joindre les deux bouts, avec la grande Delphine Seyrig. Aujourd'hui, c'est un film qui est souvent vu de manière un peu caricaturale, comme un gag, puisque c'est vraiment un film d'arrêt d'essai, un film d'auteur très radical, puisqu'il ne s'y passe presque rien. En fait, c'est très ténu, très contemplatif. On voit Delphine Seyrig souvent éplucher des patates. Mais à la fin du film, spoiler, elle finit quand même par buter un mec.
Bang, bang.
Voilà. Évidemment, la matrice aujourd'hui dans la pop culture de beaucoup de ces représentations, ça reste Pretty Woman.
Pretty Woman walking down the street.
De Gary Marshall, donc, qui a été diffusé en 1990 et qui était à l'époque présenté comme une comédie romantique et pas comme un film sur le travail du sexe ou la prostitution. Et d'ailleurs, cette histoire d'une prostituée qui tombe amoureuse de son client, je pense qu'on peut peut-être souhaiter aux travailleuses du sexe d'avoir d'autres récits que celui-là et d'autres histoires d'amour.
Pour parler d'elle.
Ouais. Que cela, oui. Et le stéréotype qui est mis en jeu dans ce film, c'est celui de la pute au grand cœur. D'ailleurs, le film continue aujourd'hui de faire débat. Alors, est-il sexiste? Est-il féministe? J'ai tranché, je pense. J'aime bien le personnage de la prostituée, donc le personnage de Viviane, je le trouve très attachant. Mais malheureusement, la manière dont Julia Roberts est filmée a fait date et reste encore très décriée, puisque la caméra découpe vraiment son corps. Et dès la première scène où on la voit, donc ce sont des parties de son corps sans montrer son visage, ce qui est vraiment un exemple d'objectivation assez fou. Et du côté des questions de genre, le film romantise le déséquilibre financier entre un homme forcément puissant et riche et une femme donc belle, pauvre et bête, puisque c'est donc l'histoire d'un homme d'affaires qui va porter un regard condescendant et paternaliste sans aucun respect du consentement, puisque quand on paye tout est permis, sur une sorte de souillon, comme, un peu comme Cendrillon, qui va s'élever en société grâce à lui et donc tout lui devoir. Et moi, ce qui m'a surtout choquée en revoyant le film, c'est les questions de classe, puisque le running gag du film, c'est que ce personnage est mal éduqué, donc il y a tout un tas de blagues classistes qui se moquent du fait qu'elle soit prolétaire et vulgaire. Mais le film tient en fait tout du long un double discours, c'est-à-dire qu'il montre comment la prostituée est discriminée par la société, mais en même temps, le spectateur va aussi se moquer d'elle et rire à ses dépens. Et donc, tous les moments qui pourraient être dramatiques, par exemple le fait qu'elle puisse pas payer son loyer, sont tout le temps contrebalancés par une petite musique légère. Donc voilà, drôle d'expérience de revoir ça.
Je comprends. C'est vrai qu'en revoyant ces films-là, il y a des choses qui nous sautent beaucoup plus aux yeux, j'ai l'impression. Pour citer d'autres films contemporains, moi j'ai un faible pour Monster, sorti en 2003. Donc Monster, c'est ce film de Patty Jenkins avec une Charlize Theron méconnaissable, donc qui est
un Oscar.
Ouais, qui est une femme prostituée SDF.
Can I ask you a question? Are you a prostitute?
Qui en fait prend des clients en bord d'autoroute, enfin qui monte dans les voitures d'hommes. Et donc son personnage Aileen, qui lui a valu un Oscar, effectivement, va s'éprendre d'une jeune femme rencontrée dans un bar. Et donc les deux femmes vont s'échapper pour être ensemble. Et Aileen va se mettre à tuer ses clients pour leur prendre leur argent.
Revenge movie.
Voilà, après avoir été violée par l'un d'eux dans une scène vraiment horrible. Gros trigger sur cette scène. Donc là aussi, donc, c'est une ambiance entre guillemets white trash. Et Revenge, avec pas mal de violence, mais aussi avec des moments de grâce entre ces deux femmes. Et donc, c'est un portrait assez poignant. Et c'est absolument pas un film à thèse sur la prostitution, peut-être d'ailleurs parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, d'une tueuse en série.
Voilà. Alors, du côté de la France, récemment.
Bah, en fait, j'ai revu aussi Jeune et Jolie de Ozon.
Ce que j'aimais, c'était prendre rendez-vous, discuter sur Internet, parler au téléphone.
avec Marine Wacht dans le rôle titre. Donc une certaine idée du job de lycéenne avec une sorte d'anti-héroïne cynique issue d'un milieu bourgeois. Donc en fait, quand j'ai commencé à le regarder, tout m'a semblé horrible. Hyper male gaze, en mode sexualisation d'une jeune femme de 17 ans, parce que c'est de ça dont on parle. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez troublant en fait qui se diffuse dans ce personnage de bourgeoise qui accumule l'argent de ses passes, mais qui fait pas ça non plus par plaisir, comme dans Belle de jour. Enfin, en fait, c'est troublant, on connaît pas vraiment ses raisons. Et elle va rester tout le temps dans la provocation, parce qu'en fait, elle est hyper consciente du pouvoir de son corps, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose d'assez troublant dans le rendu. Il y a une sorte de relation qui se noue aussi avec un client âgé. Et parfois, c'est délicat, mais l'impression globale, moi, m'a mise plutôt mal à l'aise, parce que c'est très étrange dans le traitement, c'est très froid, et on a du mal à comprendre, en fait, ce qui se joue sous nos yeux.
Oui, on ne sait pas si c'est empowering, puisque ce personnage a quand même une capacité d'agir, mais elle agit vraiment strictement dans les normes hétéronormatives du male gaze.
Ouais. Il y a quelques scènes à sauver, notamment la toute dernière, mais ouais, je sais pas, je suis pas très convaincue.
Je pense qu'on peut plutôt recommander Scheherazade, qui a été tourné à Marseille, qui est un film de Jean-Bernard Marlin, qui est plus récent, qui montre une vision autrement plus sordide de la prostitution aux côtés d'une très jeune femme issue d'un milieu populaire. Donc c'est vraiment dans le milieu de la petite délinquance, mais c'est un film, je trouve, assez puissant sur une histoire d'amour entre deux jeunes marginaux. Voilà. Alors quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de tous ces exemples qui ne sont pas exhaustifs?
En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas extrêmes qui sont représentés. Donc, soit dans la surenchère du sordide, et dans ce cas, la question de la prostitution devient un objet un peu de sensationnalisme ou de voyeurisme. Par exemple, j'ai repensé à l'horrible film Taken.
I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Sur le trafic de prostituées avec un Liam Neeson en sauveur de ces dames.
White savior.
Voilà. Soit c'est le glamour et les ambiances feutrées. Et bon, heureusement, certaines œuvres arrivent à dépasser cette binarité. Mais ça pose aussi la question du regard. Donc, est-ce un male gaze, regard masculin objectifiant sur le corps, ou est-ce un regard plus empathique qui donne du pouvoir à ces personnages? Est-ce que la personne qui parle est concernée, comme Emma Baker ou Nelly Arcan? Et en fait, la figure de la travailleuse du sexe pose vraiment la question, en fait, de la représentation des corps et des femmes en général au cinéma. Et pour moi, on peut totalement représenter des femmes qui vont être dans une performance d'une féminité entre guillemets traditionnelle, sexy, tout en leur donnant de l'autonomie et de la force d'un point de vue de la réalisation. Et en tout cas, je pense qu'il ne faut pas que le sujet soit un prétexte pour tomber soit dans le jugement ou dans le film à thèse sans aucune originalité d'un point de vue cinématographique.
Oui, et pour parler de retournement de stigmates, je pense qu'il y a un bon exemple, même si c'est un film très populaire, très grand public, c'est Queens, qui est sorti à l'automne dernier, le film de Lauren Scafaria.
Quand j'étais petite, je voulais travailler avec les animaux. C'est un peu ce que je fais.
Avec J-Lo, Constance Wu, il y a même Lizzo et Cardi B qui font des apparitions. Oui. Et ça raconte la vraie histoire d'un groupe de stripteaseuses qui ont fait les poches à des clients très riches à New York en 2015. Et pour moi, voilà, sous ces atours très... Bling Bling, c'est presque un gros film communiste, en tout cas un film un peu socialiste, puisqu'il montre comment les corps sont une force de travail pour ces femmes-là, et ce sont vraiment des corps qui travaillent, quoi, qui sont pas juste sexualisés.
Ouais, c'est génial, et ça se regarde comme un film d'action, avec la sororité en bonus, donc c'est extrêmement jouissif. Et côté série alors, ça donne quoi ?
Alors, on peut recommander une série faite par un homme, David Simon, le créateur de The Wire. Et oui, une fois n'est pas coutume, c'est The Deuce sur HBO.
I wanna learn how to make movies.
Qui est une série sur l'industrie du porno, dont on a déjà parlé dans Quoi de Meuf, qui se passe dans les années 70 à New York et qui suit tout le milieu interlope de la nuit à Times Square, donc des prostituées, des macs, des barmen, et une travailleuse du sexe particulièrement débrouillarde qui s'appelle Candy, jouée par Maggie Gyllenhaal, va oser se reconvertir et débuter dans le porno, puisque c'est vraiment les débuts balbutiants de l'industrie pornographique. Et ensuite, elle va faire ses propres films. Donc ça, c'est un bon exemple aussi de renversement de regard vers le female gaze, dont nous parle d'ailleurs Iris Bray dans son essai qui vient de sortir aux éditions de L'Olivier, qu'on vous recommande.
Ouais. Et en série, on peut aussi citer The Girlfriend Experience, produite par Soderbergh. Donc la série est basée sur son film avec Sacha Grey. Et donc c'est l'histoire d'une étudiante en droit, en stage dans un cabinet d'avocat, qui va devenir escorte pour une clientèle plutôt fortunée pour payer ses études. Et donc là, c'est bon, c'est assez froid, détaché, un peu comme Le Ozon. Mais c'est vraiment le côté un peu glamour, dangereux, milieu des affaires qui est représenté. Ça se regarde bien, mais voilà, c'est pas, enfin sans plus.
On peut aussi mentionner au passage la série Easy sur Netflix, dans laquelle on voit apparaître Carly Sciortino du blog Slut Ever, qui fait une petite apparition croustillante dans l'épisode 3 de la saison 2.
I guess I play a prostitute. I was typecast.
Et d'ailleurs, un client de la prostitution a dit sur le site Reddit que, en tout cas de son point de vue de client, c'était très réaliste.
Voilà. Mais c'est moi qui ai trouvé ça sur Reddit et le mec a fait un pavé en disant oui, c'est exactement ça. Donc après, je sais pas, c'est son avis à lui.
Et je pense que de manière générale, le mieux est toujours d'aller voir du côté des intéressés et des concernés. C'est ce qu'a fait le magazine américain Mel, qui a demandé directement à des TDS quel film et quelle série leur parlait le plus ou leur semblait le plus réaliste. Certaines ont parlé du personnage de Sharon Stone dans Casino de Scorsese, de la série Harlot, fille de joie sur Hulu, qui parle de deux maisons closes au XVIIIe siècle à Londres, mais également des films du réalisateur américain Sean Baker. Donc il y a The Florida Project ou encore Tangerine. Il y a aussi le personnage de Mindy, qui est une stripteaseuse dans la série Friday Night Lights, et son travail dans la série n'est ni célébré ni dénigré, ce qui est déjà une bonne chose. Mmh. Et alors, est-ce qu'on a des conseils ou des recommandations pour en savoir plus sur la représentation du travail du sexe dans la pop culture ou ailleurs ?
Oui, bah moi je vais faire une recommandation corporate puisque je vais citer la série en fait La politique des putes sur Nouvelles Écoutes dans la série Intime et politique. Donc c'est le podcast réalisé par Océan qui interroge des travailleuses du sexe de plein d'horizons différents.
Oui, c'est super.
Et toi Clémentine ?
Alors moi j'aime toujours beaucoup Magic Mike de Steven Soderbergh avec Channing Tatum.
I'm just trying to figure out why stripping.
Women, money and a good time.
Je l'aime. Qui raconte voilà le trajet d'un homme assez ordinaire dans le striptease masculin et le milieu du boylesque à Miami. Je trouve qu'on ne voit pas assez d'hommes quand on parle des représentations du travail du sexe.
Oui, ou alors c'est des vieux gigolos genre Andy avec Vincent Elbaz et c'est une catastrophe.
Quelle horreur! Bon, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode. Dites-nous si vous avez des représentations préférées des travailleurs et des travailleuses du sexe dans la pop culture. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quad Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Pauline Verdusier.
Monté et mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Prise de son et coordination, Ashley Tola.